France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Renault, un héritage français. Chapitre 5, la forteresse ouvrière. 1945, Louis Renault est mort et son entreprise est nationalisée. L'État nomme à sa place un ingénieur qui a aussi été un grand résistant, Pierre Le Faucheux. Il pratique une épuration sélective dans l'entreprise, mais sélective seulement. Voilà ce qu'il dit. Il faut aussi regarder vers l'avenir et ne pas réclamer le départ de tous ceux qui ont pris, à un moment donné, le genre de la maison, quand ce genre n'était tout simplement pas le bon. Louis Renault est mort et son fils Jean-Louis enrage. Il observe, impuissant, s'installer dans le bureau de son père un homme extérieur à la famille. Il lui écrit « Vous ne m'enlèverez pas de l'esprit que j'ai autant le droit de revendiquer l'usine Renault que des fils l'ont à revendiquer l'héritage de la maison familiale que leur père a construite pour eux. » Et il ajoute « Je travaillais déjà aux usines Renault à l'âge où les enfants des classes dites dirigeantes, comme vous-même sans doute, poursuivent la conquête de diplômes qui doivent automatiquement leur donner des commandements auxquels ils sont insuffisamment préparés. » Louis Renault est mort, mais il reste ses usines, 30 000 employés et un pays à reconstruire qui pourrait bien avoir besoin de voitures. Il reste aussi un nom, une marque, puissante et reconnue. Et s'il faut faire oublier le prénom, Louis, il serait dommage de faire disparaître le patronyme Renault. C'est ainsi que ce nom, tellement associé au grand capital et à ce milliardaire tout-puissant, va devenir l'emblème de la cogestion avec les syndicats dans le cadre d'une entreprise publique qui se voudra socialement exemplaire.
Renault, un héritage français, une série en 6 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Cornaer.
Renault, Renault, l'automobile de France, Renault, Renault, rien ne vaut ma Renault.
Durant la guerre, les résistants ne se sont pas contentés de harceler l'occupant et d'œuvrer à la libération du pays. Pour beaucoup, il fallait déjà réfléchir à la suite, préparer pour l'après-guerre une nouvelle société où rien ne serait comme avant. Dans de nombreux cercles, l'idée que l'État allait devoir davantage prendre de place au sein de cette nouvelle société fait son chemin. On imagine une France plus égalitaire, car après tout, ceux qui ont résisté venaient de toutes les classes sociales. Alors quand Le Faucheux prend les rênes de l'entreprise Renault qui vient d'être nationalisée, il est imprégné de ses idées. Il discute avec les ouvriers et les syndicats d'une nouvelle manière de gérer l'entreprise. L'ambiance qui plus est au relèvement de la nation. Aussi, une entente entre le patron et les employés de Renault se met-elle en place. Chacun donne le meilleur de lui-même et avec de bons résultats. Mais les problèmes ne tardent pas à surgir, la lutte entre les classes reprend du service, les dissensions aussi, et en 1947, c'est la fin de l'Union sacrée.
Effervescence dans le monde du travail. Les usines Renault, qui emploient quelques 30 000 ouvriers, se sont mises en grève. Commencée dans quelques ateliers, la grève s'étendait peu à peu à l'usine entière. La CGT décidait alors d'appuyer le mouvement. Et la grève des usines Renault, devenue la question du jour, mettait en cause l'existence même du gouvernement. Les ministres communistes se désolidarisaient de leurs collègues. Et M. Ramadier, après s'être fait confirmer la confiance de l'Assemblée, transformait son équipe.
Jacqueline Costa-Lascou, vous êtes sociologue et on vous doit notamment le livre « Les hommes de Boulogne-Billancourt » aux éditions Autrement. Alors après la nationalisation de Renault et avant les grandes grèves de 47 dont on vient d'entendre un écho, il y a donc ce moment où ouvriers et patrons de la régie semblent travailler ensemble en bonne intelligence. Est-ce que vous diriez que c'est une expérience réussie de cogestion de l'entreprise à ce moment-là ?
Il n'a jamais été question que ce soit le comité d'entreprise qui fasse la gestion de la régie. Donc, on ne peut pas dire vraiment co-gestion, mais des relations de confiance, une volonté de mobilisation générale.
Est-ce que vous diriez que c'est quand même un début d'utopie réalisée d'une entreprise qui, au fond, met toutes ses forces en commun de la cave au grenier, pourrait-on dire, et qui ne s'est finalement réalisée que parce que c'était ce moment très particulier de la libération, de l'après-libération et de l'après-guerre.
Bien sûr, c'était la philosophie du CNR, du Conseil national de la résistance. On réembauche, y compris des gens qui avaient été licenciés. On établit un nouveau règlement intérieur. On développe la formation professionnelle, très important l'école de formation professionnelle à Billancourt. On crée des œuvres sociales et on diffuse une presse intérieure, l'accélérateur. Donc vous avez raison, il se passe quelque chose. 2 ans assez extraordinaires, il se passe quelque chose.
Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne finalement que quelques mois et que en 1947, de nouveau, la situation se tend et il y a des grèves?
1947, ça veut dire une inflation galopante. Ça veut dire des ouvriers qui ne mangent pas toujours à leur faim. Heureusement, il y avait la cantine. Ça veut dire aussi des problèmes d'éclatement politique entre deux gauches. Une gauche socialiste qui veut gérer. Et puis une gauche à l'extrême gauche.
Donc si on résumait un petit peu à gros traits, on pourrait dire que au sortir de la guerre, une gauche modérée veut faire en sorte que les relations sociales soient plus apaisées, une gauche de gouvernement soit plus apaisée chez Renault, mais ça se casse les dents cette volonté sur une gauche plus à gauche, une ultra-gauche peut-être, je ne sais pas quel mot il faudrait employer, qui au fond réclame davantage et qui empêche finalement ce projet de se réaliser.
D'autant plus qu'il y a l'inflation. Donc il y a des problèmes économiques graves. Et en 1948, eh bien, il va y avoir le licenciement de délégués du personnel. Donc, en effet, vous avez raison, c'est tout à fait la première cassure. Et on va retrouver après, en 1952-53, des conflits extrêmement durs.
Pendant les Trente Glorieuses, Renault devient une entreprise spéciale. C'est un laboratoire social qui influence toute la France ouvrière. Et cette atmosphère va perdurer jusque dans les années 80 et rester encore palpable jusque dans les années 90. En 1991, la fermeture annoncée de l'usine de l'île Seguin avait donné lieu à une émission sur France Culture intitulée « Que reste-t-il de Billancourt ?». Daniel Labbé, ancien syndicaliste et auteur d'un livre qui posait cette même question, était interviewé par Muriel Schwab.
Des ateliers conservent un nom en fonction d'événements qui s'y sont passés, parfois quelques dizaines d'années avant. Et le Petit Kremlin, alors c'est un surnom récent d'ailleurs, hein, c'est pas un nom très très ancien, le Petit Kremlin, c'est un nom qui date des années 80. Bah, c'est un atelier qui a pris ce nom parce que c'est certainement dans cet atelier où le Parti communiste était le plus fort. C'est une force relativement récente. C'était pas forcément un atelier où la CGT et le Parti communiste avaient la meilleure implantation. Depuis longtemps, mais c'est dans cet atelier où en 1981, nombre de militants communistes avaient été embauchés, dont le gendre de Georges Marchais. Et évidemment, en 82, 83, 84, cet atelier est devenu le pivot de la force de la CGT, là où il y avait le plus de militants, d'adhérents et le plus d'activité syndicale. Et certainement l'endroit où la CGT avait le plus de pouvoir. Et ce pouvoir était étendu. Il était étendu puisque il y avait les formes de pouvoir syndical classique qui se traduisaient par une capacité à faire des débrayages, des grèves, des manifestations. Mais dans cet atelier, on ne pouvait pas avoir de promotion si l'on ne passait pas par le délégué. La maîtrise était acquise à la CGT et le patron même de l'atelier ne prenait pas de décision sans que la CGT soit consultée. Là, on entre réellement dans un des aspects de ce qu'était cette forteresse ouvrière. C'était pas une force, on a toujours l'impression que cette forteresse ouvrière était une forteresse ouvrière classique, bâtie sur le rapport de force et sur des affrontements et sur une puissance syndicale. Bon, ça, c'est un petit peu l'aspect image d'Épinal des choses. En fait, la forteresse était aussi bâtie sur une espèce de multitude de cogestion de la vie quotidienne de l'usine entre la CGT et la direction. Mmh. Et le Petit Kremlin en est aussi là une illustration.
Jacqueline Costa-Lascoux, qui détenait le pouvoir, au fond, durant cette période des 30 Glorieuses dans l'entreprise Renault? Est-ce que c'était la CGT? Est-ce que c'était les patrons? Est-ce que c'était d'autres entités?
90% des suffrages aux élections professionnelles, c'était pour la CGT.
Ça ne suffit pas à avoir
mais
le
alors,
pouvoir sur
attendez,
l'entreprise.
Ça n'est que le début de la réponse. Mais il faut dire aussi qu'à la régie Renault, vous avez eu des patrons d'une grande envergure. On se souvient d'un patron comme Pierre Dreyfus, qui a vraiment été à l'origine de beaucoup d'avancées sociales. Et ça n'était possible que parce qu'il y avait un minimum de relations de confiance. Il y avait, y compris entre la maîtrise, les professionnels et les OS, des relations, y compris de liesse par moment, de rencontres. Ça n'était pas n'importe quoi.
Vous dire ça a existé, cet état d'esprit très particulier sur l'île Seguin.
Absolument. D'ailleurs, on disait les Renault. Et c'était un état d'esprit, c'était une façon d'être.
Co-gestion ou pas, le travail chez Renault n'est pas toujours une sinécure, en particulier dans les fonderies. Nouveau témoignage issu de cette même émission de 1991.
Oui, je vais parler des conditions de travail en fonderie, qui étaient extrêmement pénibles, et dont les salaires étaient facilement, pour un OS, le salaire d'un contremaître. Alors il se passait que les conditions d'hygiène et de travail est extrêmement pénible, ce qui faisait qu'un gars laissait facilement 10 ans de sa vie. Pour la bonne raison qu'il avait les mêmes horaires que les autres qui travaillaient, mais avec des salaires plus amples. Alors ça attirait des gens qui n'en avaient pas toujours les capacités, et puis qui se gonflaient devant les services de médical pour faire croire que bon. Et quand il fallait qu'il parte, eh bien, il est évident qu'il suppliait de rester. C'est la cause pour laquelle on avait toujours demandé, nous, à ce que ces gens-là soient plus payés en faisant moins d'heures. Et puis, et des congés supplémentaires par rapport aux autres, ça aurait été beaucoup mieux que de leur donner de l'argent. Parce qu'une fois qu'on est habitué à une paye, il est difficile d'en redescendre en dessous. Il y avait aussi une mentalité qui était tout à fait à part. C'était pas rare qu'un contremaître s'engueule avec un ouvrier, et puis un ouvrier lui fiche une paire de claques. C'est pas pour ça qu'on le fichait à la porte. Mmh. Ça s'arrangeait entre eux. C'était le milieu, et le milieu des fonderies, c'était un milieu vraiment spécial. Vous savez, hein, c'était l'enfer. Hein. C'était l'enfer, vous rentriez là-dedans, vous aviez peur. Hein. C'était pas l'habitude, ça. Eh ouais, on a mis les marteaux pilons qui tombent, ça fait des étincelles partout, mais ça sent le carbone, ça sent le... Vous savez, c'est quelque chose d'épouvantable, les fonderies et le marteau pilon. Hein. C'est ça, c'était atroce. Hein.
Jacqueline Costa-Lascoux, qu'est-ce que vous pensez de ce que raconte ce témoignage?
Tous les ateliers avaient leur forme de pénibilité. Parler des femmes qui travaillaient aux selleries, par exemple.
Vous voulez dire au siège des voitures?
Oui, c'est ça. Ça s'appelait les ateliers de la sellerie. Et évidemment, on y a mis des femmes au début parce que ça ressemblait à la couture. Bon. Mais c'était difficile. Vous avez le travail sur la chaîne n'était pas si simple non plus que ça. Donc moi, je ne mettrais pas tellement une hiérarchie. Dans tous les postes, il y avait de pénibilité. Mais Renault avait instauré un dispensaire. Renault avait instauré des lieux de pause. Renault avait instauré des moments où, d'ailleurs, sur les chaînes, vous savez, il y avait la machine à café, la théière pour le thé à la menthe.
Donc vous diriez qu'il valait mieux travailler chez Renault que de travailler ailleurs dans l'industrie. Il y avait une différence entre les conditions de travail chez Renault et ailleurs.
C'est du moins ce qu'on nous disait et ce qui se disait. Il ne faut pas oublier non plus que Renault, c'est pour ça qu'on a dit vitrine sociale, a pensé l'aide au logement, les loisirs, les colonies de vacances pour les enfants. Et dans les lieux de pause, n'oublions pas que la CGT a repris à son compte les demandes des OS musulmans pour avoir des lieux de prière, pour avoir des douches, des lieux d'ablution, en disant on n'était pas dans le séparatisme à l'époque. On était, quand quelqu'un arrive à faire passer une demande, ça profite à tout le monde. N'oubliez pas, les Renault, ils allaient au TNP.
Au Théâtre National Populaire.
Au Théâtre National Populaire, parce que le comité d'entreprise leur donnait des places. N'oubliez pas que Renault, c'était là où les chanteurs de l'époque venaient Il se souvenait, moi, ceux que j'ai vraiment interviewés, se souvenaient, par exemple, d'Yves Montand chez Renault. Donc, vous vous rendez compte, c'est une conception du travail qui faisait vraiment avancer notre regard sur ce qu'ils appellent, et c'était marqué. J'ai vu cette image à la peinture blanche, contre les brimades, la dignité.
Et donc en 1955, la troisième semaine de congés payés est accordée chez Renault et la quatrième en 1962, donc avant le reste des Français.
Combien de temps de vacances ?
Ah oui, prendre un mois quoi.
Un mois, 4 semaines là.
Oui, 4 semaines, c'est normal, ça y est,
c'est gagné là.
C'est gagné, bien gagné.
Ah vous ne travaillez pas encore chez Renault ?
Non.
Vous avez quelqu'un qui travaille ?
Oui, mes parents.
Tes parents ?
Ouais.
Ton papa et ta maman ?
Oui.
Tu pars en vacances quand ?
Demain.
Bien joué, où vas-tu ?
En Espagne.
Oh, en Espagne, c'est un long voyage.
Ouais.
Alors on part en vacances aussi ?
Ah, oui, monsieur.
Bien content.
Où allez-vous ?
À Beauvais.
Où ça ?
À Beauvais.
Et vous, madame ?
Moi, je vais à Billancourt-Plage.
Ah, très bien. Alors, bonnes vacances, madame.
Ah, oui.
Si l'État est bien le propriétaire de la RNUR, la Régie Nationale des Usines Renault, les pouvoirs publics interviennent peu dans la gestion au quotidien de l'entreprise. Pierre Le Faucheux, le PDG, s'est d'ailleurs battu pour cette indépendance. Et puis il faut dire qu'en interne, les Renault veulent protéger l'image de cette entreprise nationalisée, l'ériger en exemple afin que d'autres firmes passent à leur tour dans le secteur public. Pour cette raison aussi, Renault doit réussir sur le plan économique, car pour beaucoup, elle représente une alternative au capitalisme d'actionnaires. Dire « Regardez, Renault est une entreprise qui fonctionne » revient à légitimer une entreprise nationale, une entreprise publique. En réalité, si Le Faucheux déclare que Renault fait des voitures et pas de politique, il est clair que la politique est partout chez Renault. On peut même dire que son losange est devenu un symbole politique, celui d'une économie dont les acteurs essentiels appartiennent à l'État. C'est pourquoi critiquer Renault, c'est aussi critiquer cette vision politique-là.
Il y avait à un moment donné, au département 14 où j'étais, des gens qui tombaient dans les pommes souvent, et même il y a eu des cas mortels, des types qui partaient chez eux et qui mouraient. C'est pas un, c'est 3, 4, comme ça, c'est en très peu de temps, l'espace de très peu de temps.
C'était quoi le département 14 ?
C'était le département de la 4 chevaux à l'époque. Et il est évident que moi, j'ai pas laissé les affaires là, parce que j'ai dit, de toute manière, il y a un manque d'aération. Il y avait l'eau soluble qui alimentait les bécanes. L'eau soluble, c'est de l'eau mélangée avec de l'huile, et qui croupissait. Et puis, on les changeait pas assez souvent. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Enfin, au point de vue hygiène et sécurité, c'était lamentable. Et quand j'ai vu ça, j'en ai eu marre. J'ai écrit directement une lettre à l'inspecteur du travail. Alors, ils avaient mis tous leurs insignes de la CGT pour qu'on voyait bien qu'ils étaient là, évidemment. Ouais, t'aurais pas dû faire ça. Tu comprends, c'est une usine nationalisée. Et si tu fais fermer le département, il faut pas. Le département risque de fermer à cause de toi. Combien ça va faire le chômeur et tout ça. Bon, alors il faut mieux. Hein, il faut mieux que les gens en crèvent que de fermer le département. Je dis de toute manière, j'ai bien étudié mon cas aussi. Hein. Il y a énormément de personnes déjà d'un certain âge qui peuvent rester là. Voilà. Il y a une majorité d'émigrés dans le département, ce qui, eux, ne les gêne absolument pas d'aller à Flin, à Sandouville ou à Cléon, ça ne change absolument rien, et s'il faut fermer le département, on le fermera, puis c'est tout. Mais on ne va pas laisser les gens mourir, parce que c'est une régie nationalisée, et dire que... Alors, ça serait le contraire, au lieu de dire c'est l'exemple, on serait forcé de dire c'est le mouroir, pour pas pousser, quoi.
Votre regard sur cette archive ?
C'est très dramatisé, mais il a certainement la légitimité pour le faire. C'est pas en tout cas ce que nous ont dit des anciens de la régie que l'on a interviewés.
Mais ce qu'on entend bien aussi dans cette archive, c'est que on ne peut pas toucher à Renault. Parce que toucher à Renault, critiquer Renault, en fait, c'est critiquer toute une pensée, toute une vision du monde.
Vous avez raison, c'est évident. Il y a le côté emblématique de Renault, bien sûr.
Le 21 octobre 1970, devant les usines Renault, le philosophe Jean-Paul Sartre prononce un discours appelant à l'union des forces entre le monde intellectuel et le monde ouvrier. On le retrouve plus tard distribuant des tracts devant la porte de l'usine. Jacqueline Costa-Lascou, c'est presque une image d'Épinal, au fond, de la France des années 70, que de voir Jean-Paul Sartre, cet intellectuel célèbre dans le monde entier. Qu'est-ce que ça signifie, au fond, pour Renaud, et quel effet ça pouvait avoir aussi sur les ouvriers et le personnel ?
Il fallait qu'il soit un peu en hauteur, parce qu'il était petit, Jean-Paul Sartre. Et il était attendu. Alors, il fallait qu'il monte sur un fût. Et quand des anciens de Renaud me disent « Il a fallu qu'on le pousse aux fesses pour qu'il monte sur son fût. » Et là, il nous a parlé. On n'a pas compris ce qu'il nous a dit. Et c'était pas important, parce que on savait que si des intellectuels venaient, les journalistes viendraient avec. Mais ça voulait dire la prise de conscience que entre le monde du travail intellectuel et le monde du travail manuel, il devait se passer quelque chose, il devait y avoir des relations. Et c'était comme ça que la société pourrait avancer.
Donc vous pensez que finalement, ça n'a pas tellement pris, au fond, cette alliance entre les intellectuels et le monde ouvrier de Boulogne-Billancourt ?
C'était un début de prise de conscience et de reconnaissance, je dirais presque de reconnaissance réciproque. Quelqu'un m'a dit « Monsieur Sartre est venu ».
Qu'est-ce que ça signifie, cette phrase de Sartre « Il ne faut pas désespérer Billancourt » ?
Il avait compris que c'était tellement un emblème, un symbole fort, que si on avait des réponses inadéquates aux demandes des ouvriers et que l'on arrivait à des conflits, alors ce serait un effondrement démocratique, ce serait un effondrement sur le plan social, et que beaucoup de choses partaient de là, parce que Billancourt, et notamment l'île Seguin, c'était vraiment le symbole d'une histoire en marche.
Est-ce que ce n'était pas l'idée aussi qu'il fallait cacher les crimes du communisme pour ne pas désespérer Billancourt, c'est-à-dire pour ne pas désespérer le peuple
de gauche ? J'aurais aimé, mais on n'en était pas là. N'oublions pas que nos intellectuels ont mis beaucoup de temps à dénoncer ce que vous dites. Alors là, non.
Dès les premières années de l'après-guerre, un grand nombre d'ouvriers de chez Renault est constitué de personnes venues d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc. Les ouvriers se regroupent bien souvent par nationalité dans les différentes usines de l'entreprise. L'immigration algérienne va plutôt à Billancourt, tandis qu'on trouve davantage de Marocains sur le site de Flins, en aval de la Seine. Même la guerre d'Algérie ne remettra pas en cause ces flux. Pour cette raison, l'histoire de l'immigration en France et celle de Renault semblent par certains moments se confondre.
Un autre problème brûlant, c'est le problème nord-africain. Est-ce que la présence dans les ateliers des usines Renault d'un pourcentage assez élevé de travailleurs nord-africains ne vous pose pas des problèmes d'ordre psychologique ?
Bon, vous savez, pourcentage élevé, oui, c'est vrai, nous avons quelques 3000 membres de notre personnel originaires de l'Afrique du Nord, mais ce qu'il y a peut-être de remarquable, c'est que ce personnel nord-africain présente exactement les mêmes caractéristiques que l'ensemble du personnel, disons, métropolitain, que ce soit du point de vue de la structure professionnelle, que ce soit de l'âge des ouvriers, que ce soit de leur ancienneté même dans la maison, et il n'y a vraiment rien qui soit plus particulier au nord-africain. Ce qui fait que, dans l'ensemble, c'est un personnel qui est relativement bien intégré, enfin, et peut-être y sommes-nous pour quelque chose, parce que nous nous sommes efforcés, enfin c'est peut-être un peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais notre effort a surtout porté, voyez-vous, à ne rien faire laisse croire aux Nord-Africains qu'on les considérait comme une catégorie à part.
C'est cela. Et tout en les faisant bénéficier strictement des mêmes avantages que leurs camarades métropolitains.
Absolument des mêmes avantages, qu'il s'agisse de leur participation à notre effort logement, qu'il s'agisse de salaire, qu'il s'agisse de possibilités de promotion. Je vous assure, il n'y a absolument rien dans aucune de ces rubriques qui permette de dire qu'il y a quelque chose qui est spécial au Nord-Africain.
Jacqueline Costa-Lascou, que vous inspire cette archive de Monsieur Limon, de la direction du personnel de Renault, qui date de 1957.
Oh, c'est apaisant comme discours. C'est partiellement vrai, là, on peut dire que le syndicalisme, plus cette atmosphère très particulière de la fierté des Renault, fait que beaucoup de conflits, de clivages ont été, non pas estompés, mais n'ont pas donné lieu à des conflits trop graves.
Donc vous diriez qu'au fond, même si l'égalité dont parle M. Limon de la DRH de Renault n'est sans doute pas exacte, il y avait chez Renault, dans l'entreprise, un facteur plutôt d'intégration.
Et républicain, si j'ose dire. Et c'est là où ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que ça a été une régie, c'était tellement important. C'est-à-dire que l'État républicain ne voulait pas favoriser, évidemment, des clivages racistes, dit ce qu'on appellerait aujourd'hui le séparatisme. N'empêche que on a utilisé les OS de l'immigration parce que les autres faisaient leur promotion. On sait très bien que en embauchant des anciens coloniaux, ou les coloniaux, ça dépend de la période, pour faire un travail qui était en effet, notamment dans certains départements, pénible, difficile, évidemment, ça permettait aussi la promotion des autres. Je veux dire qu'on ne va pas être naïf sur ces questions-là. Et n'oubliez pas les problèmes linguistiques. Et c'était à un moment où la technicisation des chaînes, etc., était moindre. Si ça s'est arrêté au début des années 90, c'est qu'on a remplacé les OS en grande partie par des robots.
Chers camarades, la direction qui a suivi toute la journée devant nous nous apprête à voir quelques minutes avant cet important meeting qu'elle nous recevrait.
Un autre moment social important chez Renault, c'est évidemment celui de mai 68. Souvenez-vous, à la surprise générale, une insurrection étudiante voit le jour. Elle est suivie par le monde ouvrier et l'usine de Cléon est la deuxième de France à se mettre en grève. Les Renault poursuivront même le mouvement après les accords de Grenelle et ce qu'ils obtiendront ira au-delà des accords négociés au niveau national. Dans les années 70, Jacqueline Costa-Lascou, après mai 68, dont on a vu que Renault avait été l'un des bastions, quel est l'état social de l'entreprise ? Est-ce qu'il y a toujours une espèce de laboratoire social, comme on dit chez Renault ?
Il y a eu cette phrase dont je me souviens. « Je suis passée de mouton à berger », disait un ancien OS de l'île Seguin. Et ils ont dit très bien, on a acquis, à partir peut-être de 68, et avec tout ce que nous avons dit tout à l'heure sur le fait que le reste de la société et les intellectuels ont voulu donner de l'importance, on a acquis de la considération.
Le 31 mars 1992, le dernier véhicule fabriqué sur l'île Seguin franchit le pont qui la relie à la berge. Depuis longtemps, construire des voitures sur ce site étriqué qui compte pas moins de 11 étages est devenu très mal commode avec ses ascenseurs immenses pour transporter les pièces d'un atelier à un autre. À la fin, il fallait 30 heures pour y fabriquer une 4L, alors que dans l'usine de Douai, on fabriquait une Renault 9 en seulement 20 heures. Mais Billancourt était davantage qu'une usine, un héritage ouvrier. Jacqueline Costa-Lascou, en un mot, qu'est-ce que la fermeture de Boulogne-Billancourt a pu représenter pour les milliers de travailleurs qui s'y sont succédés pendant des décennies ?
Une immense tristesse, presque une souffrance. Je me souviens d'interviews où des anciens ouvriers, vous voyez, qui travaillaient à la chaîne, etc., avaient les larmes aux yeux en nous parlant de ce qu'ils avaient vécu chez Renault. Vous savez qu'ils ont fait une chanson. Une chanson qui, l'île s'est détachée de Billancourt. Elle s'est en allée à Flins, puis s'en est allée au Havre, et peut-être jusqu'en Amérique.
La La fermeture de l'île Séguin et sa transformation en une salle de concert a constitué une étape de plus vers la normalisation de l'entreprise Renault. Elle n'est plus aujourd'hui une régie, mais une multinationale cotée qui compte parmi ses plus gros actionnaires l'État français et le constructeur japonais Nissan, même si les liens entre les deux constructeurs sont en train de se défaire. Son slogan aujourd'hui, « La vie avec passion », rappelle un peu celui des voitures à vivre, tout en ne disant pas exactement la même chose. Mais qu'a signifié cette idée des voitures à vivre? Était-ce seulement une formule marketing ou y avait-il quelque chose de plus authentique dans cette expression qui a fait date? C'est ce que nous allons nous demander au cours du sixième et dernier épisode.